c'est de considérer ce que tu es en train de vivre comme une saison. C'est-à-dire que la saison, bah, ça passe. Et sauf que j'entendais que forcément, toi, si ça avait été possible, bah, tu aurais continué à faire ce que tu faisais en indépendant. Et ça, je l'entends. Mais j'ai envie de te poser cette question de juste pour toi, que tu te réfléchisses, c'est en quoi c'est la meilleure chose que je suis en train de vivre là, c'est la meilleure chose pour la suite. Parce que je sais pas dans quelle saison, est-ce que tu es en hiver, est-ce que... Peut-être que c'est l'hiver et on a l'impression que tout est mort et que voilà, mais après il y a le printemps. Et après ça repart et puis bah, on sait pas si... Est-ce que tu seras dans un poste salarié où on aura besoin de tes compétences et de ton câblage d'entrepreneur ou est-ce que tu seras entrepreneur d'une autre manière et voilà, donc je t'invite vraiment à vivre ça comme une saison de vie. Donc il y a un début, il y a une fin et il y a une continuité.
Bienvenue dans Sors de ta grotte, le podcast qui te booste pour passer à l'action. Passer à l'action de quoi ? Tu veux lancer ton entreprise, un projet créatif ou booster ton projet whatever ? À la fin de la journée, c'est les mêmes mécanismes et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast. Avec Élie Grenot et moi-même, Aurélie Ampel, nous avons fondé Andy et Family. Nous accompagnons chaque jour des personnes qui veulent se lancer ou des entrepreneurs plus avancés qui ont la niaque de travailler dans leur zone de génie et de sortir de leur grotte. Avec ce podcast, nous avons à cœur de vous partager une dose d'inspiration et de motivation dans la joie et la bonne humeur. Et avec nous aujourd'hui, nous accueillons notre expert coaching carrière, Uriel Méniassan.
Ouais.
Wouhou. Bienvenue. Tu vas bien?
Bienvenue.
Merci. Merci les filles. Merci Aurélie. Merci Élise. Eh ben, je suis vraiment content d'être là avec vous. Et puis, ben, je vais vous laisser mener le bal. Et voilà, on est entre amis. Ça va être cool.
Exactement, ça fait très longtemps que je voulais enregistrer ce podcast et là, ça y est, on est au mois d'août, ça y est, les choses se calment, j'ai le temps de me poser avec Élise et voilà, vraiment encore merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment un honneur pour nous que tu sois là parce que tu as vraiment un parcours très riche, beaucoup d'expérience en tant que freelance, en tant que coach, en tant que chef d'entreprise avec une équipe et puis même en tant que père. Parce que souvent, comme on a travaillé ensemble et que tu m'as coaché aussi, bah, j'ai des bonnes anecdotes. Enfin, vraiment, je trouve que tu as un parcours et un style de vie vraiment admirable. Donc voilà, j'espère que ceux qui nous écoutent bah, vont être aussi captivés que moi. Alors, Uriel, je sais que tu as plusieurs casquettes et on va y venir. Mais avant, j'aimerais introduire pourquoi j'ai souhaité t'inviter avant que tu nous présentes ton parcours et le pourquoi de tu es coach de carrière. Parce que, et oui, je trouve qu'Élise a décidé de retourner dans le salariat. C'était en juin, n'est-ce pas ?
Juin, juillet. J'ai commencé voilà. En juillet, mais j'ai pris la décision en juin de reprendre le salariat.
Alors, ce n'est pas facile du tout. Et tu nous raconteras pendant ce podcast, Élise, comment tu as pris cette décision et l'impact sur ton entreprise. Et pour revenir à toi, Uriel, bah, j'ai discuté avec pas mal de freelance au printemps dans le cadre d'une enquête que je menais. Et je suis tombée sur beaucoup qui réfléchissaient un retour dans le salariat pour X raisons, peut-être parce que voilà, ils sont fatigués de la prospection, peut-être parce que le Covid a pas mal atteint leur activité. En tout cas, je pense que c'est vraiment le bon moment pour parler de ce sujet qui est un peu tabou finalement, le retour dans le salariat après avoir été indépendant, surtout après l'année 2020 et 2021 qu'on a passé. Donc moi, je pense que en fait, ça va être un podcast plein de surprises. Et donc, voilà. Alors, Uriel, c'est quoi ton parcours et pourquoi tu as choisi d'être coach carrière ?
Oh, j'ai combien de temps ? Une heure ?
Je te laisse tout le temps que tu veux.
Ok. Alors, j'avoue que je me suis longtemps posé la question pourquoi j'ai fait ce métier. Et j'ai eu la réponse très tardivement entre le moment où je me la suis posée. Parce que moi, j'ai commencé à faire ça autour dans les années 2010. Donc voilà, on est en 2021 là, donc ça fait un petit moment. Et ce n'est que autour de 2019-2020 que j'ai eu la réponse à cette question. c'était pas, et pourtant, je crois que la réponse était vraiment sous mes yeux. Mais pour que vous compreniez, aujourd'hui, donc je suis coach carrière. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Coach carrière, bah je vais vous aider dans toutes les étapes de votre carrière. C'est-à-dire que si maintenant, vous êtes un jeune diplômé et vous dites « je veux trouver mon premier job », hop, je suis là. Okay, je peux vous aider à trouver votre premier job. Si vous n'êtes pas un jeune diplômé, mais ça fait peut-être 3-4 ans que vous travaillez et que vous dites « j'aimerais changer de job », hop, je suis là. Ok, donc je suis là aussi. Et puis, si vous dites « bon, bah, super, je suis dans une entreprise, ça se passe bien, mais suis pas bien payé. Hop, une augmentation, je sais faire aussi, donc je fais ça. Et puis si maintenant vous dites, bon, bah voilà, je suis bien payé, c'est super, mais j'en ai marre du salariat, j'ai envie de créer un business, hop, je fais ça. Et puis bah, c'est ce que j'avais fait avec toi, Aurélie, notamment. Voilà, et puis donc j'ai vraiment un grand amour pour les salariés et j'ai un grand amour pour les entrepreneurs. Donc pour moi, la carrière, c'est ça. C'est pas juste trouver un job, c'est trouver un job où on s'y plaît, c'est évoluer dans sa carrière, c'est peut-être changer de job, c'est créer à un moment donné peut-être un business. Et puis pour moi, je vais peut-être vous faire une réponse qui vous surprendra. Mais pour moi, la carrière, elle commence à 10 ans et elle se termine dans la tombe. C'est-à-dire que à partir du moment où on est suffisamment grand pour se poser la question « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?», la carrière, elle a déjà commencé, en fait. Et quand on est enfant, on est déjà influencé par le travail de papa, de maman, des gens qu'on rencontre, du tonton qui est policier, de la tante qui travaille dans le service public, du cousin qui est entrepreneur, et on commence déjà à cogiter, on se dit tiens, je vais faire peut-être ça, peut-être ça. Donc la carrière, en fait, elle commence là. Et puis ben, la carrière, c'est la vie, en fait. Je crois que c'est vraiment la partie la plus importante de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va impacter toutes les autres. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un travail dans lequel je suis bien, où je suis correctement rémunéré, ça va conditionner les vacances que je vais pouvoir offrir à ma famille. Ça va conditionner le fait que je suis bien dans mon couple aussi, parce que ben, quand on n'a pas de problème d'argent, ou moins en tout cas, généralement, on n'est pas stressé dans le couple, donc on parle moins d'argent et puis ça va mieux. Donc, et les enfants, c'est pareil, on va pouvoir leur offrir des conditions de vie que, ben, qu'on a envie, en fait. Où on va Alors que quand on a des problèmes d'argent, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, la carrière, c'est la chose la plus importante, parce qu'on va pouvoir construire sa famille, le bien-être de sa famille en fonction de la carrière qu'on a. Et j'entends régulièrement, comme j'accompagne des personnes qui sont soit en recherche d'un autre emploi ou en recherche d'un emploi parce qu'elles ne l'ont plus actuellement, qui me disent, ben, vrai, franchement, on aimerait bien avoir un enfant, mais on doit attendre que la situation soit stabilisée. Donc, la carrière peut avoir un impact sur le taux de natalité d'un pays, quand on y réfléchit. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important. Et pourquoi est-ce que ça se termine dans la tombe? Eh bien, parce que donc je passe très rapidement sur les gens qui meurent pendant leur carrière, mais c'est plutôt, pour beaucoup de gens, la carrière s'arrête à la retraite. Et là, je dis, ben non, en fait. La carrière, la retraite, c'est juste la prolongation de la carrière. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre assez conséquent de personnes qui meurent dans les mois qui suivent, dans les 6 à 18 mois qui suivent la retraite, parce qu'ils ne sont pas préparés à la retraite.
Parce que, je ne savais pas.
Parce que, tout simplement, ben, tu imagines que pendant 40 ans, tu as été rémunéré pour un travail que tu fais. Donc, tu donnais de la valeur à la société et en contrepartie, on te la rendait de manière financière. Et puis là, d'un seul coup, tu es à la retraite, tu n'as plus rien à faire, entre guillemets, si tu ne t'es pas préparé. Et on te donne de l'argent qui ne suffit pas forcément pour que tu vives bien et tu te poses un tas de questions. Et puis, tu te retrouves avec ton conjoint ou ta conjointe tout le temps ensemble et vous prenez la tête et l'espace et c'est compliqué. Et il y a des gens qui ont préparé leur retraite en mode « ouais, je ferai ça, je ferai ça ». Ils arrivent, en fait, ils perdent complètement le sens et ils commencent à dépérir et certains meurent. D'autres se font des dépressions, d'autres se suicident carrément.
D'accord? Ah ouais. Donc, en fait, réfléchir à sa carrière, c'est réfléchir au sens de sa vie.
Réfléchir à sa carrière, c'est réfléchir au sens de sa vie. C'est-à-dire que si maintenant, tu peux être retraité et en fait, il faut te dire que… Bah, maintenant, OK, j'ai servi la société. Maintenant, okay, qui est-ce que je vais servir maintenant? Et c'est important de se poser la question avant d'y arriver, parce que quand on ne se pose pas la question, on rentre dans le schéma du dépression, voilà, perte de sens, etc. Alors que si tu commences à te dire, bon, voilà, j'ai ma retraite, elle est plus ou moins confortable, qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Qu'est-ce que je peux transmettre? Qu'est-ce que je peux faire? Et... moi, mon rêve, c'est de commencer à coacher aussi des retraités qui sont là en train de se dire, ah, mais je sais pas quoi faire, bah viens, moi j'ai des idées, j'en ai 40 à la minute, il n'y a pas de souci, on va réfléchir et puis on va poser un vrai projet dans lequel bah, tu vas être super utile, tu as un super parcours, tu vas pouvoir transmettre ça peut-être à la jeune génération, tu as une expertise, que tu peux être consultant, tu peux être indépendant, tu peux être freelance, on s'en fout. La retraite, c'est un concept débile, en fait. Pourquoi est-ce que la retraite existe, en fait? Et je pense que c'est important de savoir que la retraite a été inventée parce que dans les années 1929, il y avait trop de vieux qui travaillaient et il n'y avait pas assez de place pour les jeunes. Donc on s'est dit, bon, bah, il faut que les vieux, ils cèdent la place. Et en fait, la retraite, elle a été inventée pour ça. D'accord? Sinon, la retraite, ouais, on vous a dit, bon, bah, maintenant, stop, vous arrêtez de travailler. Et les gens ont dit, bah, pourquoi? Non, non, et les jeunes, ils ont besoin. Voilà. Donc, bah, vous débrouillez-vous. On vous paye, il n'y a pas de souci. C'est ça, la retraite. Mais tu prends Warren Buffett, Bill Gates, qui a largement dépassé l'âge de la retraite, bah, ces mecs-là continuent de travailler. Et ils continuent à donner du sens à leur vie. Et moi, je me vois bien vivre jusqu'à 123 ans et cool, être en forme et continuer de faire des conférences, des podcasts, coacher des gens, être en super. Jouer à Dragon Ball Z avec mes enfants qui auront peut-être 60 ans et ce sera cool. Mais voilà, je me vois pas arrêter une minute parce que je sais que si je fais pas ce pourquoi je suis fait, en fait, je meurs.
Oui.
C'est vraiment ça. Et je pense qu'on a tous une utilité. Et j'aime beaucoup cette phrase de Nicolas Prépin qui dit toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Tu n'es pas à ta place, tu t'autodétruis. Tu n'es pas en train de faire ce que tu es censé faire, tu t'autodétruis. J'aime bien prendre cet exemple. Imaginez, j'ai une batterie là devant moi et j'ai pas de baguette. Elles sont des baguettes. Je vais prendre la bouteille d'eau, je vais prendre un micro et je vais taper dessus. Je vais péter et le micro et je vais péter la batterie. Alors, parce que c'est pas leur place, c'est pas leur fonction, c'est pas leur rôle. Et souvent, dans la carrière, on prend un rôle qui n'est pas le nôtre. On prend une utilité qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça qu'on s'autodétruit. Et que derrière, ça fait des burn-out, ça fait des gens qui perdent le sens, etc. Donc,
Et
si
justement,
aujourd'hui.
c'est à la suite de pertes de sens que beaucoup de gens se lancent dans le freelancing.
Exactement. Et je ne sais pas si c'est la meilleure raison, mais en tout cas, le freelancing, c'est un moyen de trouver du sens. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, pour répondre à la question, parce que des fois, il faut m'arrêter, hein, j'ai tendance à aller dans plein de sens différents.
Non, mais j'adore parce qu'il y a toujours plein de métaphores dans ce que tu racontes.
Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, la réponse à la question que je me suis posée pendant presque 10 ans, c'était que c'est mon histoire. En fait, j'ai eu un papa qui arrivait en France et il s'est vraiment battu. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas l'information pour comment on fait pour lancer une activité, comment est-ce qu'on fait pour trouver un travail. C'était plus compliqué. Et c'est vrai qu'il a observé des choses que mon père a fait plein de diplômes, il a fait HEC, école informatique, prof de maths. C'est quelqu'un qui en a dans la caboche. Et il s'est retrouvé dans des situations où il faisait une formation, il terminait majeur de promo et il faisait partie des derniers à trouver du travail. Et puis quand il regardait autour de lui, et puis il disait, mais en fait, toi, t'as pas trouvé de travail, toi aussi. Et le point commun, c'est qu'ils étaient noirs, tous les trois, tu vois. Donc il a eu un peu cette croyance à un moment donné que c'était le problème, c'était la couleur de peau. Et donc, à force de ne pas trouver du travail, il s'est dit, bon, ben, je vais créer une entreprise. Donc, il s'est dit, tiens, je vais essayer. Donc, il s'est battu, il a essayé de faire des trucs. Et franchement, il avait de très, très bonnes idées. Et finalement, à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que, pour une raison ou une autre, ça ne marchait pas. Et donc, tu imagines que ben, moi, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. Et donc, quand tu as un papa qui se défonce pour essayer de gagner de l'argent, qui travaille, mais qui n'est pas rémunéré pour le travail qu'il fait, parce que bah, ça paye pas, ou qu'il essaye de trouver du travail, mais que ça ne marche pas, tu imagines que c'est un peu compliqué quand c'est juste la CAF, le RMI à l'époque, c'était qui voilà, qui fait que tu peux vivre. Et je me rappelle, il y a un truc, j'ai grandi avec ça, c'est que Je n'ai jamais vu mes parents acheter une voiture. À chaque fois, c'était, on nous donnait une voiture, tu vois. Tiens, bah, les pauvres et tout. Et, tenez, on a notre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et je me rappelle que quand j'avais 10-12 ans, j'ai entendu une conversation que j'aurais pas dû entendre et qui m'a traumatisé, en fait. J'ai entendu ma mère pleurer et mon père qui était en train de dire, bah, écoute, ma chérie, il n'y a plus d'argent. Et ma mère qui pleurait disait, mais comment on va faire pour les enfants? Comment on va faire pour les habits? Comment on va faire? Et moi, j'arrive, j'ai 10-12 ans et j'entends ça. Et je rentre comme ça, puis avec des grosses larmes, papa, maman, on était pauvres, c'est ça? Et j'ai pas de réponse, en fait, à cette question. Tu vois, c'était juste bouche grande ouverte, mince, on a dit un truc que le petit aurait pas dû entendre. Et en fait, quand t'as pas de réponse, tu te dis quoi quand t'es enfant? Tu dis, eh ben, la réponse est oui. On est des pauvres. On est des putains de pauvres, je me suis dit. Et du coup, ben, j'ai grandi comme ça, en me disant, on est des pauvres. Ça y est. Et quand t'as 10-12 ans et que t'entends ça, tu te dis, c'est fini. On va dormir sous les ponts. Et du coup, ouais, j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce que je fais au travers de mon travail, ça a énormément de sens. Parce que qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à trouver du travail. J'aide les gens à créer un business. Parce que je veux pas qu'il y ait d'autres enfants qui connaissent ce que moi j'ai connu, tu vois. Donc, c'est très fort. Ça m'émeut quand j'en
Ouais, c'est
parle.
magnifique.
Mais c'est ça, en fait. Et c'est ma raison de vivre. Et c'est ça qui fait que le matin, j'ai la patate et que je me lève à 4 heures du matin et que pendant que la plupart dorment, je suis déjà en train de bosser, de réfléchir à des stratégies, de comment est-ce que je vais donner de la valeur aux gens, comment est-ce que je vais pouvoir les accompagner, comment est-ce que je vais pouvoir les booster. Je crée des outils tous les jours quasiment. Et j'adore ça. Et je me suis dit, oh, en fait, c'était ça. Je veux être la solution que j'aurais adoré être pour mon père à l'époque. Mais j'ai pas envie d'être juste une solution pour le père qui maintenant n'est plus en âge de travailler, de créer une entreprise. Je veux être une solution pour tous ceux qui potentiellement risquent de passer par cette case-là. Et voilà, c'est ça, ma raison d'être, mon why. Et c'est ce qui fait que, comme souvent, je commence à 4 h du matin et je termine à 23 h minuit parce qu'il y a des webinaires, des conférences et que ça m'éclate. Et 4 heures, 4, ouais, entre 4 et 6 heures de sommeil, ça me suffit, ça me régénère et c'est suffisant parce que il y a comme un feu qui brûle. Et voilà, c'est ça mon métier.
Wow.
C'est
Ouais.
vraiment magnifique. Et justement, est-ce que donc oui, donc le coach de carrière, donc tu interviens dans différentes configurations, que les personnes soient déjà salariées, par exemple le salarié qui a une bonne paye, mais en fait même pendant ses vacances, il est obligé de travailler parce qu'il gère une équipe et qui se dit qu'il peut pas faire autrement, en fait, de continuer comme ça. Bah, il aurait peut-être bien besoin de quelqu'un comme toi qui le challenge un peu et dise, mais regarde, en fait, tu as plus de perspectives, tu as peut-être potentiellement accès à un travail meilleur. Et puis, ben, là, ce qu'on va regarder peut-être plus aujourd'hui, ça va être les freelances qui veulent retourner dans le salariat. Moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est, ouais, mais est-ce que je vais retrouver la paye que j'avais avant, quand j'ai de mon emploi salarié d'avant? Moi j'aimerais savoir du coup toi en tout cas des personnes que tu reçois, c'est quoi leur motivation, qu'est-ce qui fait qu'ils décident d'y retourner dans le salariat?
C'est très intéressant cette question. Et en même temps, je pense que ça va vous surprendre, mais les salariés qui veulent changer d'emploi et les freelances qui veulent retourner au salariat, ils y vont pour exactement les mêmes raisons, en fait. Il y a l'argent, mais il n'y a pas que ça. Faut savoir que je me suis un jour posé la question. Je me suis dit, j'aimerais créer une entreprise. Non, j'aimerais trouver une entreprise dans laquelle, en fait, on peut travailler à vie dedans, mais parce que c'est cool d'y travailler et que t'as pas envie de changer. Et j'ai cherché. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une entreprise où c'est cool, qui te paye bien, où tu as un bon équilibre de vie, tu as un super lifestyle et tu apprends plein de trucs. Est-ce que ça existe? Et je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Et je me dis, tiens, est-ce que peut-être c'est ça? Et puis tu te rends compte que, ah bah non, on a un employé qui nous a quitté. Ah non, c'est pas ça. Et donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui quittait l'entreprise, cette entreprise, ça ne marchait pas. Et je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que les gens quittent? C'est vrai, si on veut trouver comment créer une entreprise où on garde les gens, bah, il faut peut-être déjà comprendre pourquoi les gens s'en vont. Et en fait, ils s'en vont pour 4 raisons. Et les freelances, quand ils veulent retourner au salariat, quand ils veulent quitter leur statut de freelance, c'est aussi pour l'une de ces 4 raisons. OK. Donc, la première raison, et j'aime bien les acrostiches, donc pour un mnémotechnique très facile, c'est de dire que je vais vous donner l'ère de jeu ou l'ère de combat des raisons qui nous poussent à changer d'emploi. D'accord? L'ère, A-I-R-E. Et A comme apprentissage. Quand on est dans un boulot ou dans un poste freelance où à un moment donné, on n'apprend plus rien, on s'ennuie, c'est toujours la même chose, ben, on n'a plus envie de le faire. Et j'ai reçu beaucoup de gens qui veulent changer d'emploi et qui me disent, Uriel, je veux changer d'emploi. Je leur dis, pourquoi? Ben, je m'ennuie. J'apprends plus rien. J'ai fait le tour du poste. Et j'ai des freelances qui me disent, ben, j'en ai marre. Je m'ennuie. J'apprends plus rien. J'ai fait le tour de mon savoir-faire. OK. Première raison, c'est l'apprentissage. Quand tu n'apprends plus rien, ton potentiel, tes compétences, elles dépérissent. Et d'une manière générale, c'est dès qu'on est dans une forme de zone de confort. Donc, quand ça devient, voilà, j'apprends plus rien, ça devient inconfortable, c'est facile, je le fais, je gagne l'argent, c'est facile, je le fais, je gagne mon salaire, mais tu n'apprends rien, d'accord? Tu es dans une zone de confort. Et j'aime bien dire cette phrase, la zone de confort, c'est la mort. La zone de confort, c'est la mort. Si tu es confortable, donc ton couple, c'est la mort, en fait. Ton couple, il a besoin d'être renouvelé, il a besoin de surprises. Si tu es dans une zone de confort avec, avec ton conjoint, là, c'est la mort. D'accord? C'est la mort du couple. La zone de confort, c'est la mort psychologique, c'est la mort émotionnelle, c'est la mort intellectuelle, c'est la mort. Donc, il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. Donc, quand on est coach, qu'est-ce qu'on fait? On sort les gens de leur zone de confort. Parce qu'ils sont en danger de mort s'ils y restent. Hein. Donc, mec, si tu veux survivre, meuf, tu veux survivre, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Sinon, c'est la mort. Donc, du coup, ça, c'est la première chose, c'est l'apprentissage. Il faut sortir de là. Et puis, la deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'inspiration. Donc, on a A, apprentissage, I, inspiration. Ça veut dire que quand tu es freelance, est-ce que ce que tu fais, ça t'inspire? Est-ce que tu te lèves le matin et tu dis « Waouh, je vais changer le monde » ou est-ce que tu dis « Oh non, je vais encore travailler pour ces clients-là » et ça te vide, tu n'es même pas encore debout, tu es déjà vidé en fait, juste parce que tu penses à cette foutue mission ou à ce client qui te prend la tête et tu n'as pas envie. Et les salariés, c'est la même chose. Ils pensent à leur patron qui leur prend la tête, leurs collègues qui sont chiants, c'est les valeurs de l'entreprise qui sont complètement déconnectées. J'ai eu, et parmi les business managers qu'on a accompagnés, on travaillait ensemble, Aurélie, il y avait des gens qui disaient, mais je suis plus en phase avec mes clients, je suis à fond écolo et tout, et eux, ils ont des gros sous et je suis déconnecté. Ça ne m'inspire plus, d'accord? Donc, l'inspiration, c'est un point important. Et troisième, c'est R. R, ça c'est facile, c'est la rémunération. Et c'est assez surprenant. Souvent, on a l'impression que c'est le premier pilier qui part. En fait, c'est souvent le dernier pilier qui reste. C'est-à-dire que pour les salariés, ben, ils apprennent plus rien. Bon, OK, je reste encore un peu. Et ils sont plus inspirés. Bon, je reste encore un peu. Et leur équilibre de vie, ils ne voient pas leurs femmes, leurs enfants comme ils veulent, leur mari, etc. Mais le salaire est bon. Donc, je m'accroche alors qu'ils sont déjà dans la zone de confort et que c'est déjà la mort, en fait.
Ah ouais,
donc,
faut payer le crédit de la maison, c'est pas possible de faire autrement. Hein.
Mais c'est ça.
Et il faut, enfin, quand c'est la seule personne aussi qui ramène l'argent aussi, enfin, c'est qui fait le train de vie de la famille aussi.
C'est ça. Donc on entend tout ça et tout ça, ce sont des excuses. Tout ça, ce sont des excuses. Et quand on est freelance, c'est pareil. C'est que parfois, bah, On a des missions, on gagne, voilà, on n'est pas inspiré, on n'apprend plus rien, on ne voit pas sa famille comme on veut, mais on gagne plutôt correctement. Donc, c'est un peu compliqué de dire, ouais, je laisse tomber ça. D'accord? Et puis, si je vais dans le salariat, je ne trouverai pas autant que ce que je gagne là en indépendant, peut-être, ou ce que j'avais avant. Alors que souvent, je parle avec des freelances qui, ben, ils gagnent souvent moins que quand ils
Oui.
étaient bien payés, 3 000, 4 000 euros net avant. Mais ils s'éclatent, ils sont inspirés, ils apprennent, et du coup, ils ont envie de rester. Et la rémunération, là, est moins importante. Et puis, donc ça, c'est le R. Et souvent, bah, c'est le dernier pilier qui tombe. Et c'est quand bah, j'apprends rien, je ne suis pas inspiré, je ne vois pas ma famille, et en plus, je ne gagne pas d'argent, bah fuck! Là, les gens commencent à se dire, bon, bah, maintenant, c'est bon, la zone de confort, ah, j'ai compris, je suis mort, ah, il faut que j'en sorte. D'accord? Et puis, le dernier pilier, c'est E de équilibre. C'est l'équilibre de vie. Et à un moment donné, bah, c'est vrai, ouais, je suis passé. Par des phases où je travaillais du lundi au dimanche de 8 h à 22 h. C'était comme ça. Donc à un moment donné, ma femme me dit, mais et je ne me suis pas marié avec un portefeuille. Tu peux gagner de l'argent, mais à un moment donné, tu veux construire une maison, bah, tu risques d'habiter tout seul. Hein. Faut réfléchir. Donc je me dis, ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Et c'est ça en fait, c'est que quand à un moment donné on est freelance, c'est que c'est vrai, on doit relancer les clients, leur courir après parfois, faire plein de trucs qui sont pas forcément drôles. C'est cool de pouvoir se lever, aménager ses horaires comme on veut, mais il y a des trucs qui sont moins cool aussi. Et en fait, parfois, c'est ça, c'est que quand la vie de famille, elle est complètement sans dessus-dessous. Bah, à un moment donné, les gens se disent, bah, j'ai envie de retourner au salariat parce que au moins, peut-être que la paye sera moins bonne, mais j'aurai un équilibre de vie, je verrai mes enfants grandir, j'aurai ça. Et donc ça, c'est le quatrième pilier, c'est le E de équilibre. Et donc, c'est ça qui était intéressant, c'est que vous soyez freelance ou salarié, quand vous voulez changer, retourner au salariat ou aller dans l'entrepreneuriat. Parce que du coup, les salariés se disent, bah, je vais créer une entreprise comme ça, j'aurai mes horaires, j'aurai un meilleur équilibre, ce qui n'est pas vrai au début, forcément. Je vais gagner plus d'argent, ce qui n'est pas vrai au début, forcément. Je vais apprendre plein de trucs, ça c'est clair que c'est vrai.
Oui, ça c'est clair.
Et puis, je vais être inspiré et tout. Et puis, bah, s'ils ne maintiennent pas le feu sacré, bah, ce n'est pas toujours vrai dans la durée. Donc, voilà. Et qu'on soit salarié ou freelance, finalement, on va pour les mêmes raisons, on change pour les mêmes raisons.
Ah ben, ça je m'y attendais pas du coup, qu'il y ait ce point commun-là.
Moi non plus.
Et non, ça éclaire vachement du coup, ça donne des clés là pour chacun puisse un peu analyser sa situation. Mais clairement, il y a aussi. Donc c'est vrai que l'avantage du salariat, et des fois, moi j'en rêve, hein, des fois dans le sens 5 heures, je finis ma journée, je badge et j'oublie tout. Je n'ai pas la charge de réfléchir, ok, c'est quoi la nouvelle stratégie pour trouver des clients, ok. Enfin, et puis il y a les vacances garanties.
Quand
Donc.
j'ai payé, c'est juste énorme. Ça faisait 2 ans que je ne connaissais pas ça. Je peux vous dire que voilà.
Ça fait du bien. Et puis bon, après, il y a aussi le cas où après 1 an, 2 ans, bah, une fois que le chômage il est cramé et que l'entreprise n'est toujours pas rentable, bah, on n'a pas toujours un conjoint ou une conjointe qui est OK pour que ça continue comme ça. Ça peut créer des tensions dans le couple. Et puis, ça peut détruire la santé aussi, du coup, de se retrouver dans des difficultés financières avec un stress financier énorme. Et je pense que une grande majorité des entrepreneurs ont vécu ça à un moment donné, le stress financier, ne serait-ce que juste de façon temporaire. Il faut pouvoir dormir avec ça. Et donc, ça peut motiver des gens à chercher un poste salarié, quoi.
C'est clair.
Tout à fait. Bah, clairement, c'est ce qui m'a motivée. Moi, enfin, c'est par rapport aussi au fait que bah, j'ai un conjoint et que mon conjoint n'était pas forcément OK pour que je me lance. Mais il y avait le chômage qui palliait toutes les difficultés financières. Et quand le chômage s'est arrêté, il m'a clairement dit que que pour lui, enfin, il m'a posé la question si j'avais une visibilité. Et comme j'avais aucune visibilité, bah, il m'a dit que ce serait bien que je retrouve, un travail salarié.
Et oui.
Ça a été la première motivation et la seule d'ailleurs.
Mais d'ailleurs, tu n'avais pas super envie, hein.
Ah, pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai, parce que en fait, je suis en congé payé, enfin, parce que là, il y a une fermeture administrative, donc je suis en congé payé actuellement. Bah, ce que je fais, c'est que je travaille sur l'entreprise.
Du coup, double journée de travail.
Double vie. Mais c'est clair que l'inspiration, l'équilibre de vie et le A, l'apprentissage, moi, je l'ai principalement dans l'entrepreneuriat, en fait. Et là, c'était vraiment la seule motivation, c'était d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Après, je suis bien tombée, j'ai un job qui correspond à peu près à ce que je fais actuellement. Mais c'est vrai que la principale motivation, c'était vraiment la rémunération.
Et du coup, enfin, toi, tu as dû quand même surmonter un sentiment un peu de honte et d'échec, en fait, quand même. Enfin, je ne veux pas parler à ta place, Elise, mais.
Alors, honte, sentiment d'échec, je n'ai pas ressenti ça comme ça, mais un petit peu une redescente de l'euphorie. Parce qu'en fait, bah, depuis qu'on a commencé avec le sommet malade épanouie, etc., avec tous les accompagnements, les enquêtes qu'on a faites, les liens qu'on a créés. En fait, justement, tout ce qui est inspiration, tout ce qui est énergie positive, l'apprentissage aussi, parce qu'on a appris beaucoup de choses depuis qu'on a créé Andy Épanoui. C'était vraiment de l'endorphine en intraveineuse tous les jours, quoi.
Bon,
Et quand.
l'endorphine, ça paye pas le loyer.
C'est ça. Et donc, quand mon conjoint m'a dit en gros ça, que l'endorphine, ça payait pas le loyer et que enfin, le prêt de la maison, c'est vrai que ça m'a fait redescendre d'un seul coup, un petit peu comme un bon trip. Et ça fait redescendre complètement. Et c'est vrai que c'est ce côté-là de se dire bah, je reviens à la réalité des choses, quoi, qui m'a un petit peu coupé les ailes.
Ouais, et pour clôturer sur du coup ton expérience, c'est clair que tu aurais pu quand même pousser jusqu'à septembre, du coup, parce que donc on est en train de réfléchir à, on va lancer des nouveaux accompagnements pour les malades chroniques qui veulent retourner au travail, que ce soit pour une entreprise ou un emploi. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'est dit, en fait, est-ce que c'est confortable de travailler dans un stress financier comme ça?
C'est vrai que depuis que enfin, je suis plus du tout stressée par l'argent, ramener l'argent, etc. C'est vrai que avec toi, Aurélie, on travaille totalement différemment et justement, on est plus à vendre en mode j'ai faim. On est plus à vendre en mode je vais t'aider.
Voilà.
Et ça change tout en termes de positionnement. Et oui, j'aurais pu clairement pousser jusqu'à septembre. Mais là, l'opportunité s'est présentée. Ça allait très, très rapidement. Donc, j'ai accepté directement, en fait.
Voilà, ben, je pense, Uriel, voilà, peut-être tu as des cas similaires de personnes qui arrivent. Alors, soit la trésorerie est pleine, mais envie de trouver un poste, enfin une stabilité, ou soit des personnes au pied du mur, peut-être.
Oui, ça arrive régulièrement. Et d'ailleurs, c'est souvent là que les gens se disent, bah, il me reste plus grand-chose, je vais me faire coacher. Il faut le faire avant. Il faut le faire avant. Il faut vraiment le faire avant. Et en fait, je pense que c'est. Et merci pour ton partage, Elise. Bah, ça m'a vraiment parlé et touché. Ce que je crois, c'est que. En fait, pendant un temps. Vraiment, au bout d'un moment, j'ai commencé, je pense, à avoir un peu, pas la grosse tête, mais avoir un peu comme une forme de petit dédain pour les salariés. Bah, ouais, ça, c'est ton patron hein, qui décide de tes horaires. Hein, tu vois? Et puis, bah, nous, on est entrepreneurs, machin. Et en fait, j'ai compris que ça, en fait, c'était pas bon parce que tu peux pas servir correctement des gens dont tu te moques, même si c'est un petit peu, même si c'est gentiment, tu as besoin, et ce que je veux dire peut surprendre, mais on a besoin d'aimer nos clients, vraiment. On a besoin d'aimer nos clients. Et quand tu aimes tes clients, tu vois, si, je sais pas, si vous avez des frères et sœurs, des gens que vous aimez, ben, vous comptez pas les heures, vous êtes prêt à. Alors, c'est pas de devenir leurs esclaves, c'est pas ça, mais c'est de penser service, en fait. Et j'ai plus le nom de la personne qui disait ça, vous retrouverez, mais il dit quelque chose qui m'a impacté. Il me dit, ben, le meilleur moyen de trouver des clients, c'est de commencer à les aider avant que l'argent change de main. Et je dis, ouais, ça, c'est puissant. Ça, c'est vraiment puissant. Donc, si tu es vraiment dans une démarche où tu cherches à aider tes clients, et quand c'est facile, quand tu aimes tes clients, j'ai rendez-vous, tu dis, ah, encore ça, non, je dois aimer cette personne. Ok, je t'aime. Ok, on a rendez-vous et ça va être cool. Et donc, ça change complètement l'état d'esprit. Et ce qui fait que quand on est dans cet état d'esprit, bizarrement, le souci financier, il est moins là, il est beaucoup moins présent. Parce que quand on est face à notre client, on pense à une personne qu'on aime. Et on pense pas à son portefeuille. On pense à une personne qu'on aime. Et du coup, on va dégager une énergie qui est complètement différente, qui sera plus crève la faim, comme tu disais, Élise, mais en mode, ben, je suis là pour te bénir, je suis là pour t'aider, ça va être cool. Et puis, les gens ressentent ça. Et du coup, ça fait qu'ils ont encore plus envie de travailler avec toi. Et la conséquence, c'est que tu gagnes plus d'argent. Donc, c'est ça le truc et que beaucoup de freelance et beaucoup de salariés n'ont pas compris. C'est que si plus tu te détaches, plus tu détaches ton attention de l'argent, plus l'argent te court après. C'est un truc de
C'est
fou.
fou, hein?
C'est un truc de fou. C'est comme ça.
Et en même temps, c'est super difficile de décrocher. Mais ça, c'est peut-être un sujet pour un autre podcast. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Et
Clair.
en fait, clairement, personnellement, la dernière fois que j'ai. Ah, si, j'avais fait une lettre de motivation juste pour voir au mois de janvier. Mais c'est pas simple, en fait. Comment on refait une lettre de motivation quand ça fait des années qu'on n'en a pas fait?
Je pense que c'est pas une bonne question, tu vois, parce que il faut pas se dire comment est-ce qu'on fait, parce que la méthode est la même que ça fait assez longtemps que tu n'en as pas fait. Tous les jours, ça
Oui, mais
change.
qu'est-ce qu'on raconte?
Qu'est-ce qu'on raconte? Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je pense que tu confirmeras, Élise, mais ta lettre de motivation, à mon avis, elle obéissait à un principe clé. C'est que déjà, les lettres de motivation, on ne parle pas de ses motivations. Alors, on ne parle pas de ses motivations. Dans une lettre de motivation, le vrai but d'une lettre de motivation, c'est pas de dire, bah, moi, je suis motivé. Imaginez, vous rencontrez le prince charmant et il vous dit, ouais, moi, ce qui me motive, ben, t'as un beau corps, je suis très motivé d'être avec toi. Non, c'est pas terrible, hein, tu vois, tu vas pas parler de tes motivations si tu veux séduire quelqu'un, d'accord? Ce que tu vas plutôt faire, et c'est beaucoup plus intelligent, c'est de chercher quelles sont les motivations que a cette personne. Et finalement, qu'est-ce qui motiverait cette personne d'être avec moi? C'est ça, en fait, que je dois me poser comme question. Et avec un employeur, c'est la même chose. Avec un client, c'est la même chose. Qu'est-ce qui motiverait un client de travailler avec moi? En quoi est-ce que qu'est-ce que je dois faire pour le motiver? Ça veut dire, je m'intéresse à ses problèmes, je m'intéresse à ses goûts. Ah, ce client, il aime, bah, ce qu'il aimerait, c'est vraiment doubler son chiffre d'affaires d'ici son prochain sommet. Parce que c'est hyper important. Il aimerait recruter 3 nouvelles personnes, mais il a besoin de générer 25 000 euros bruts en plus tous les mois. Donc, tu t'intéresses à ces problèmes. Et pour une entreprise, c'est la même chose. Quand on est candidat, OK, c'est quoi les problèmes de cette entreprise? OK. Ben, ils ont un gros turnover. Ils ont une très mauvaise. Ils ont très peu de prospects qui arrivent sur leur site, sur leurs réseaux sociaux, etc. Ils aimeraient être voilà, plus présents. D'accord, ça, c'est leur problème. Bon, eh ben, je vais faire un truc, je vais écrire de manière à ce qu'ils comprennent que je sais résoudre leurs problèmes. D'accord? Je vais faire ça. Je vais expliquer que, ah, c'est super, ben, il paraît que vous avez ce problème. Ben, c'est marrant parce que moi, dans telle entreprise où je gérais mes clients, ben, je gérais exactement ce type de problème. Et voilà les résultats que j'ai eus. Et puis, c'était super. Et tout le monde était content. Et vous racontez ça, les gens se disent, hey, mais en fait, elle sait régler mon problème. Et du coup, je suis motivé de rencontrer cette personne. Et du coup, je suis motivé peut-être de l'embaucher. Donc, le secret d'une lettre de motivation, c'est déjà de ne pas parler de ses motivations, parce qu'on s'en fout, en fait. Mais c'est de réfléchir à comment est-ce que je peux motiver l'entreprise de me rencontrer. Comment est-ce que je peux motiver le client de travailler avec moi? Et ça veut dire je m'intéresse à leurs problèmes et je parle de ça. Et ils vont comprendre que, ah, bah, s'il l'a fait ou s'il dit qu'il l'a fait pour des clients, elle pourrait le faire pour nous. Et si elle peut le faire pour nous, c'est qu'il faut qu'on l'embauche. Donc, s'il faut qu'on l'embauche, bah, c'est bon, elle a le poste.
C'est
Voilà.
QFD.
Alors, juste, moi, je vais aller, enfin, je vais aller parallèle à ce que tu dis, hein, je ne vais pas te contredire. Mais par rapport à ma lettre de motivation, en fait, moi, j'ai fait rejoindre mes motivations à la aux motivations de l'entreprise. Et donc, en gros, c'est pour un poste de référent handicap à l'université. Pour faire très simple, cette personne, elle met en place les aménagements pour les étudiants pour qu'ils puissent continuer leurs études de manière adéquate. Et en fait, j'ai storytellé ma lettre de motivation. Et j'ai parlé de l'expérience d'Aurélie pendant ses études. Qui m'avait marquée dans le sens où elle avait été accompagnée, enfin déjà elle avait eu du mal à finir ses études à cause de sa maladie chronique et qu'elle avait été aidée par un référent handicap et beaucoup aidée par des associations qui étaient dans l'université. Pour faire simple, Aurélie, si je suis à
Oui,
côté, tu me
bien.
dis. Et en fait, j'ai raconté cette histoire en introduction de la lettre de motivation et les recruteurs m'ont contacté le lendemain. J'ai postulé et en fait, ils m'ont vraiment contacté le lendemain directement. Et après, j'ai eu l'entretien une semaine après et j'ai eu un deuxième entretien RH où en fait, on ne m'a pas recruté, c'est enfin on m'a vendu le poste en gros parce qu'ils voulaient que je sois là.
Ouais,
Donc,
super.
en fait, c'est juste pour ajouter une petite nuance, c'est qu'il faut parler de la motivation de l'autre, mais si en plus on fait rejoindre nos propres motivations avec les motivations de l'entreprise, c'est tout bénef.
Yes, complètement d'accord avec ça. Et ouais, bravo. Ah, parce que je pense que c'est ça, en fait, vraiment, qu'il faut faire. C'est effectivement, beaucoup de gens font l'erreur de parler uniquement de leur motivation. Ah, bah, vous êtes une entreprise à l'international. Et en fait, juste quand on réfléchit à ça veut dire qu'en gros, vous êtes en train de dire que n'importe quelle entreprise à l'international, ça vous intéresse. Ah, mais je vais être avec toi parce que tu as les yeux bleus. Bah, moi, j'ai aussi. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est dangereux de mettre effectivement ses motivations. Mais si on arrive à faire à faire rejoindre les deux motivations, vraiment, ça, je pense que c'est un très très bon coup, effectivement. Donc, bah, merci pour ton partage et bravo aussi pour ça, parce que c'est la bonne chose à faire. Ouais.
Moi, j'aimerais bien évoquer un sujet avec toi, Uriel. C'est la honte ou le sentiment d'échec de revenir dans le salariat. Parce que justement, beaucoup se disent que le fait de retourner dans le salariat, c'est l'échec de leur entreprise finalement.
Ouais. C'est vraiment intéressant parce que c'est drôle, il y a des gens qui vont dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de boulot.
Oui, ça c'est mon cas.
Et puis on ne se pose pas la question de t'es en échec en fait dans le salariat, c'est pour ça que tu viens. Je crois que c'est vraiment juste une question de lecture parce que souvent les gens qui vivent ça. En fait, je pense qu'il y a deux possibilités, peut-être même les deux en même temps, mais la première possibilité, c'est que ils regardent juste le verre à moitié vide, en fait. Et c'est vrai, on peut se dire, bon, bah, ça n'a pas marché, d'accord. Mais ce que tu oublies peut-être, c'est que la personne qui aujourd'hui se dit, tiens, je vais retourner au salariat, et la personne qui a démarré l'entreprise, ce n'est pas tout à fait la même personne. Elle a appris plein de trucs. Elle a eu des victoires, elle a capitalisé en expérience. Et c'est juste génial, en fait. Donc, au lieu de se dire, bah oui, ça n'a pas marché, bah, est-ce que c'était prévu que ça marche? Déjà, première question. Et puis, est-ce que finalement, ce n'est pas une réussite? Tu as réussi à vivre combien? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Voilà, et tu as fait autre chose. Tu as eu des contacts, tu as développé un réseau, tu as fait plein de trucs. Donc, au lieu de te dire, ça n'a pas marché, réfléchis sur qu'est-ce qui a marché. Avec quoi tu repars? Comment tu as grandi? Comment est-ce que ça t'a aidé à être spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, financièrement plus intelligent? Et c'est juste une question de se poser la bonne question. Et on se pose la question de bah pourquoi ça n'a pas marché? Au lieu de qu'est-ce qui a marché? J'ai comme ça dans un de mes process, on appelle ça le process du saut quantique. Et le process du saut quantique, c'est quand tu es méga challengé. D'accord? Tu as un truc, c'est un des outils de coaching que j'utilise, et tu es méga challengé. Genre, il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes clients, son père venait de décéder. Voilà. Ou mieux, encore, enfin mieux. J'ai un client dont le père a failli décéder. Il a fait un arrêt cardiaque. Et moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. C'est-à-dire que je suis, dans mon rôle de coach, je suis capable de mettre mes émotions de côté et de poser la question que personne n'osera te poser. Tu vois? Genre, mon client me dit, ben voilà, écoute, est-ce qu'on peut reporter le rendez-vous parce que mon père vient de faire un arrêt cardiaque? Où mon père vient de mourir. Je lui dis, ok, ben d'abord, toutes mes condoléances et comment tu le vis? Ben, t'imagines mal, mon père il est à l'hôpital ou mon père je dois l'enterrer demain. Je dis, ok, mais je te demande pas ce que tu dois faire demain, je te demande comment est-ce que tu le vis, vraiment. Ben, je sais pas en fait, mais je suis triste. Ok, t'es triste, pourquoi t'es triste? Bah, mon père est mort. Non, c'est pas ça la question. Pourquoi t'es triste? Ton père est mort, d'accord. Mais pourquoi t'es triste du fait que ton père soit mort? C'est ça ma question. Pas pourquoi t'es triste, mon père est mort. Pourquoi t'es triste parce que ton père est mort? Elle est là la vraie question. Et donc, souvent, les gens. Oui, mais quand quelqu'un meurt, on est triste. Je dis, c'est pas une règle, c'est pas une loi. D'accord? Tu vas pas aller en prison si t'es pas triste parce que ton père est mort. Donc la vraie question, c'est pourquoi tu es triste? Parce que ton père est mort. Et souvent les gens bug, mais ça commence à allumer des lumières, en fait, très intéressantes. Et puis, je prends un grand silence, une grande inspiration. Est-ce que tu es OK que je te pose une question qui est politiquement incorrecte? Et genre, il y a 2 ans, je ne demandais pas la permission, hein, je posais la question et des fois, ça faisait un peu mal, mais je posais la question, mais par contre, les gens me remerciaient toujours. Parfois un an après, mais les gens finissaient toujours par me remercier pour cette question. Et la question c'est, ok, donc t'es triste. Et est-ce que ça t'intéresse d'avoir du contrôle sur ce que tu ressens en ce moment? C'est-à-dire que tu pourrais être bien, en fait, là, dans 5 minutes. Et elle me dit, ouais, c'est quoi ton truc? Ben, c'est quoi les 50 bénéfices du fait que ton père vient de faire un infarctus, ou du fait que ton père est mort ce soir. Et là, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais il y a des gens qui disent, mais elle est incorrecte ta question, Uri. Je dis, oui, mais si tu veux avoir du contrôle sur ce que tu ressens, c'est la meilleure et la seule question que tu dois te poser. Et je vais t'aider, c'est en quoi est-ce que la mort de ton père va te faire grandir. En quoi est-ce que la mort de ton père va te rendre plus mature? En quoi est-ce que la mort de ton père va faire... Et tu vois, je peux te poser 50 questions comme ça et tu vas forcément me trouver une réponse. Et quand tu auras répondu à ces questions, tu auras trouvé 50 bénéfices. Ça ne veut pas dire que tu te fiches de la mort de ton père ou que ton père a fait un infarctus. Ça veut juste dire que tu es capable d'inverser la polarité de ce que tu ressens. Parce que quand on est triste, c'est juste qu'on voit plus d'inconvénients que d'avantages. Alors qu'en fait, en vrai, la vie, elle est équilibrée et que tu as toujours autant d'inconvénients que d'avantages. Donc, au lieu de te focaliser uniquement sur les inconvénients, regarde aussi les bénéfices et là, tu auras une vue équilibrée. Et mes deux clients en question, là, me disent, OK, ben, je vais dormir sur ça. Et les deux m'ont appelé le lendemain pour juste me remercier de ce. Ils m'ont dit, écoute, j'ai turbiné toute la nuit, j'ai réfléchi. Et tu sais que je me suis rendu compte que mon père a fait un infarctus, mais que dans notre famille, on ne s'entend pas, en fait. Et ça nous a rassemblés. Et celui qui avait perdu son père me dit, tu sais, vrai, j'ai beaucoup réfléchi. En fait, je suis reconnaissant que mon père soit mort. C'est bizarre de dire ça, hein, et d'entendre ça. Et je suis reconnaissant que mon père soit mort. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose en moi qui a été juste libéré. Et c'est un gars qui avait 60 ans et le papa avait 97 ans quand il est mort. C'était récent. Donc, c'est voilà, un ancien général de guerre qui me raconte ça. Et c'est ça, en fait, le coaching. Des fois, c'est aussi oser poser la question que personne n'ose te poser, mais c'est la question qui te fait grandir, c'est la question qui te fait réfléchir. Donc, tu vois, la honte de revenir au salariat, c'est la même. C'est OK. Quoi est-ce que tout ce que tu as fait là, ça t'a fait grandir? C'est quoi les 50 bénéfices que tu as de revenir au salariat? C'est quoi? Est-ce que tu vas avoir une paye régulière? Oh, ça fait un bénéfice. Est-ce que tu seras plus. Tu dormiras mieux la nuit? Oh, c'est un deuxième bénéfice. Est-ce que. Et voilà. Pose-toi ces 50 questions. Et est-ce que le fait de revenir au salariat, parce que c'est comme si ce serait considéré que le salariat, c'est nul. En fait, le salariat, on peut être hyper épanoui aussi. Et le salariat peut te préparer à une nouvelle vie d'entrepreneur. Comme l'entrepreneuriat peut te préparer à mieux vivre ton salariat. Et donc, c'est juste une question de lecture.
Et ton entreprise peut être en bonne santé, mais tu reviens quand même dans le salariat parce que tu n'as pas su, enfin, tu peux pas te payer suffisamment ou parce que tu peux avoir une problématique dans ta famille qu'il faut régler et que tu dois être dans. Enfin, je veux dire, y a plein de choses. Enfin, ça ne veut pas dire non plus que l'entreprise a été un échec.
C'est
C'est
ça.
juste que c'est un changement de vie.
C'est exactement ça.
Waouh! Eh ben, la boucle est bouclée. Finalement, on voit que c'est qu'une question de lecture et de comment on vit le truc et de comment on peut transformer si on ne vit pas très bien. Et justement, en tout cas, pour ceux qui voudraient aller plus loin avec toi, Uriel, en fait, comment ça se passe un accompagnement avec toi? Et puis, finalement, pour clôturer, où est-ce qu'on pourra te retrouver sur les réseaux sociaux?
Ok, alors on peut me retrouver assez facilement sur YouTube. Donc je fais des vidéos toutes les semaines, des fois en live, des fois des vraies vidéos montées avec pas mal d'humour, parce que j'aime beaucoup rire. Donc là, vous pouvez me retrouver sur Career Punch TV. Voilà, vous tapez sur YouTube Career Punch, vous trouvez un black avec des gants de boxe souvent. Et c'est moi. C'est vrai que là, c'est podcast, donc vous ne me voyez pas. Je suis en train de gesticuler depuis avant, mais personne ne voit ça. C'est dommage, j'ai raté quelque chose. Et puis, bah, sinon, j'ai mon site careerpunch.com. Et puis bah, là-dessus, il y a des liens un peu partout. Vous pouvez assez facilement m'envoyer un petit email, me contacter. Et puis, bah, voilà, on parlera de votre projet si vous en avez un, que ce soit de se lancer en freelance ou de stabiliser votre business ou de retourner au salariat ou de changer d'entreprise, peu importe, que vous ayez un handicap ou pas, que vous soyez jaune, bleu, rouge, on s'en fout. Ça va être un super échange. Voilà, c'est tout. Merci.
Super, bah Élise, voilà, dis-nous, voilà, qu'est-ce que tu retiens de ce podcast, et puis je te laisserai clôturer l'épisode.
Alors, qu'est-ce que je retiens de ce podcast? Déjà, dans la lettre de motivation, il ne faut parler que des motivations de l'autre personne ou essayer en tout cas d'associer ses propres motivations avec les motivations de l'autre. Et surtout, ce que je retiens, c'est que le retour au salariat, c'est pas forcément une épreuve difficile, une épreuve négative à vivre, et que en fait, c'est juste notre boussole interne qui va déterminer si le salariat ou l'entrepreneuriat est quelque chose de négatif ou quelque chose de finalement très positif. Et en tout cas, moi, je sais que y a énormément de choses positives que je vis actuellement d'avoir repris les salariats. Et bien sûr, on continue quand même avec Aurélie dans nos activités. Et donc, en fait, c'est vraiment enrichissant d'avoir une double vie sur les deux aspects. Donc, voilà. Voilà ce que je retiens de ce podcast.
Yes. Et puis, je veux bien juste faire un tout dernier mot. Et ça, c'est vraiment pour toi, Elise. C'est de considérer ce que tu es en train de vivre comme une saison. C'est-à-dire que la saison, bah, ça passe. Et sauf que j'entendais que forcément, toi, si ça avait été possible, bah, tu aurais continué à faire ce que tu faisais en indépendant. Et ça, je l'entends. Mais j'ai envie de te poser cette question de juste pour toi, que tu te réfléchisses, c'est en quoi c'est la meilleure chose que je suis en train de vivre là, c'est la meilleure chose pour la suite. Parce que je ne sais pas dans quelle saison, est-ce que tu es en hiver, est-ce que... Peut-être que c'est l'hiver et on a l'impression que tout est mort et que voilà, mais après il y a le printemps. Et après ça repart et puis ben, on ne sait pas si... Est-ce que tu seras dans un poste salarié où on aura besoin de tes compétences et de ton câblage d'entrepreneur ou est-ce que tu seras entrepreneur d'une autre manière et voilà, donc je t'invite vraiment à vivre ça comme une saison de vie. Donc il y a un début, il y a une fin et il y a une continuité.
Parfait. Et ben, on termine là-dessus et puis ben, n'hésitez pas à nous écrire en MP sur le Instagram de Sors de ta grotte pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis on te dit à bientôt peut-être pour un autre épisode et bonne rentrée à toi.
Yes, ciao.